C'est plus adapté pour des serviteurs tremblants que pour des fils joyeux. Hein. Donc la nuit solennelle où elle a été instituée, rappelez-vous, ça a été la nuit de la Pâque, la nuit de la première nuit de la délivrance de l'Égypte, du peuple d'Israël en Égypte, ça a été quand même une nuit de tremblement. On s'en souvient, hein. Donc la mort était contenue déjà dans le sacrifice de l'agneau, le sang a été aspergé, le sang de l'agneau a été aspergé sur certaines parties de la maison, le feu devait rôtir l'agneau, donc, et toutes ces choses étaient là pour remplir l'esprit de crainte quelque part, et c'est donc à cette heure terrible de minuit, lorsque l'assemblée solennelle de la famille était là, la porte étant fermée, les invités eux-mêmes étant dans une attitude inconfortable et frappés de terreur, hein. Pourquoi ? Bien parce que leur cœur pouvait entendre le battement d'ailes de l'ange destructeur qui passait au-dessus de la maison. Donc c'était cette période-là terrible. Plus tard, quand Israël est venu au désert, nous voyons que la loi a été proclamée. La loi a été proclamée et le peuple se tenait éloigné. On le voit, et puis il est marqué que des limites ont été tracées pour que nul ne les franchisse et que même si une bête les franchissait, il fallait la lapider ou la percer de flèches. Donc ça a été un jour de crainte. Un jour de grand tremblement, lorsque Dieu leur a donné la loi au travers du feu sur le mont Sinaï. Donc cette loi n'a pas été annoncée, je dirais, au son mélodieux de la harpe, du psaltérion, de la flûte, mais elle était annoncée au son de la trompette, au son du tonnerre, au milieu de l'aveuglement des éclairs, et d'un mont Sinaï tout fumant. C'est comme ça que la loi était donnée, on s'en souvient. Et la voix de la loi, c'est « n'approche pas ». L'esprit du Sinaï, c'est un esprit de crainte, c'est un esprit de tremblement. Et les cérémonies de la loi étaient telles qu'elles inspiraient plus la crainte qu'elles ne poussaient à la foi. L'adorateur du temple, lorsqu'il arrivait, dès le matin, il voyait du sang. Du début à la fin de l'année, du sang était versé dans ce temple. La matinée s'ouvrait avec le sacrifice d'un agneau, le sang d'un agneau, donc, et les ombres du soir ne venaient pas sans qu'il y ait à nouveau un sacrifice sur l'autel. Dieu était au milieu du camp, mais la colonne de feu et de nuée était inaccessible, elle était inapprochable. Et les emblèmes de la gloire de Dieu même étaient cachés, on le voit, derrière des rideaux de bleu, des rideaux d'écarlate et de fin lin blanc. Et là, c'est dans le tabernacle, donc, et un seul avait le droit d'entrer là, et ensuite dans le temple aussi, un seul avait le droit d'entrer là, et ça, une fois par an seulement, les hommes parlaient du Dieu d'Israël à voix basse et solennelle, en retenant leur respiration. Ils n'avaient pas reçu l'esprit d'adoption, ils ne pouvaient pas dire « Abba, Père, Papa », ils ne pouvaient pas parler de Dieu comme de leur Père. Et à la base de cette crainte, qu'est-ce qu'il y avait ? À la base de cette crainte, il y avait le péché. C'était quand même ça la réalité. Nous ne voyons pas Adam avoir peur de Dieu dans le jardin, ni n'a la peur d'aucune manifestation de la divinité, tant qu'il demeure dans ce paradis comme une créature obéissante. Mais dès qu'il a touché le fruit fatal, dès qu'il a désobéi, eh bien il est marqué qu'il a vu qu'il était nu et il est allé se cacher. Et quand il a entendu la voix de Dieu qui marchait donc au milieu des arbres du jardin dans la fraîcheur du soir, Adam a eu peur, est-il marqué. Et Adam est allé se cacher loin de la face du Seigneur, au milieu des arbres du jardin. Et le péché, c'est la grande cause qui nous remplit de crainte. C'est quand même ça la réalité. Et c'est pour enlever ce terrible cauchemar de la crainte servile du cœur de l'humanité que Jésus-Christ est venu en chair sur la terre. C'est pour cela qu'il est venu. Parce que, vous savez, c'était une œuvre du diable pour nous détruire. L'ange dit « ne craignez pas », comme pour dire que maintenant, ces temps de crainte sont passés et que maintenant, des jours d'espérance et des jours de joie sont arrivés. Ces paroles n'étaient pas seulement à l'intention des bergers tremblants, mais aussi pour vous et moi et pour toutes les nations auxquelles cette joyeuse nouvelle parviendrait. Amen. Ne craignez point que Dieu ne soit plus l'objet de votre crainte servile, donc ne restez plus loin de lui plus longtemps parce que la parole a été faite chair. Dieu est venu donc pour habiter parmi les hommes, pour qu'il n'y ait plus de murailles de feu, pour qu'il n'y ait plus d'abîme sans fond entre Dieu et l'homme. Amen. Voilà. Alors parlons tout d'abord un peu de cette crainte dont il est parlé dans ces questions-là, et je crois que dès le départ, il faut que nous fassions bien la différence, parce qu'il y a une sorte de crainte dont nous n'avons pas besoin d'être libérés. C'est-à-dire que c'est une crainte qui est nécessaire, qui est excellente, qui est admirable que cette crainte-là, et qui est toujours normale entre la créature et le créateur, entre le sujet et le roi, entre l'enfant et son père, par exemple. Cette crainte sainte et filiale de Dieu qui nous fait haïr le péché, qui nous pousse à obéir aux commandements, eh bien cette crainte, elle doit être cultivée. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 9, l'apôtre nous dit « Nous avons des pères selon la chair, et nous avons eu des pères selon la chair, et nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à plus, bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie ?» Et encore, dans le livre des Proverbes, eh bien justement, c'est cela, la crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse. Avoir une sainte crainte de notre Père, le plus parfait, le plus saint, le plus juste, c'est pas un esclavage, c'est un privilège. C'est vrai. Et les anges aiment parfaitement Dieu. Les anges glorifient parfaitement Dieu, et c'est pourtant avec une sainte crainte qu'on voit qu'ils voient leur face de leurs ailes quand ils s'approchent devant lui, quand ils se tiennent dans leur présence, et quand nous serons dans la gloire devant la face de Dieu plus tard, et puis que nous serons remplis de toute sa plénitude, bien nous ne cesserons pas d'adorer avec humilité, avec respect, cette majesté glorieuse, infinie. Et je dirais que cette sainte crainte, c'est une œuvre vraiment du Saint-Esprit, et quel malheur pour l'homme qui ne la possède pas. Voilà, ceci étant dit, et bien la crainte qui doit être enlevée, c'est enlevée du cœur, c'est une crainte servile. C'est-à-dire cette crainte qui nous éloigne de Dieu et qui nous empêche d'avoir communion avec lui. Cette crainte qui nous fait penser que c'est un être terrible et redoutable qui est là simplement, uniquement pour nous punir et pour nous écraser. Cette crainte qui peut nous venir quand on pense à l'infinité, à l'infini du grand Dieu et qu'on se compare à lui. Cette crainte qui nous saisit quand on considère la grandeur incommensurable et sa puissance et notre désobéissance, et puis aussi la façon dont il pourrait nous écraser quand il le voudrait, s'il le voulait, à cause de cela. Et puis, n'y a-t-il pas bien lieu de craindre quand on compare la justice parfaite de Dieu, lorsqu'on parle de ce feu qui est là pour dévorer les rebelles avec toutes nos désobéissances et avec notre injustice. Et quand la voix de notre conscience nous reprend avec force, eh bien, elle nous met dans la crainte. Pourquoi ? À cause des exigences de sainteté de ce Dieu infini. C'est vrai, c'est cette réalité-là. Et cette crainte, c'est quelque chose qui rend l'homme complètement étranger à Dieu. Par notre nature, nous sommes ennemis de Dieu. Et pourquoi ? Parce que quand nous imaginons que Dieu est un Dieu dur, cruel, terrible, eh bien, ça ajoute encore au moulin, je dirais, de notre inimitié, si on pouvait parler comme ça. Nous ne pouvons pas aimer ceux que nous craignons d'une façon servile. Par exemple, vous ne pouvez pas obliger votre enfant à vous montrer de l'amour si son petit cœur est rempli de crainte à votre égard. Donc, s'il a peur lorsqu'il entend le bruit de vos pas dans l'escalier, ou s'il est dans la crainte en entendant votre voix, il ne peut pas vous aimer comme ça. Donc, vous pouvez obéir à une espèce d'ogre terrible parce que vous avez peur de lui, mais il ne vous sera pas possible de l'aimer dans ces conditions-là. Et un des chefs-d'œuvre de Satan, si on peut parler ainsi, eh bien, c'est justement de tromper l'homme et de lui mettre dans l'esprit une image aussi haïssable de Dieu. Parce que le diable sait que les hommes ne peuvent pas aimer ce qui les terrifie, alors il dépeint le Dieu de grâce comme un être dur, comme un être rancunier qui ne recevra pas celui qui se repent et qui n'aura aucune pitié du misérable. Mais Dieu est amour. Et quand quelqu'un se laisse éclairer par le Saint-Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, pour qu'il lui montre le caractère de Dieu, alors on ne peut pas s'empêcher d'aimer Dieu. Ah, ça, c'est la réalité. Et même si les hommes sont bas tombés, même s'ils sont dépravés, quand ils sont illuminés d'en haut pour juger justement Dieu, alors je dirais que toutes leurs âmes fondent dans ces rayons de l'amour divin et ils aiment Dieu parce qu'il les a aimés le premier. Amen. Hein? De plus, cette crainte, eh bien, ça crée un préjudice contre l'Évangile. Ça crée un préjudice contre l'Évangile de la grâce de Dieu. Combien de personnes qui croient que si elles étaient dans la foi, elles seraient misérables, hein? Bien, les gens, ils croient ça. Hein? Et, dit l'homme du monde, j'aurais à abandonner tous mes plaisirs, toutes mes joies si je devenais vraiment chrétien. Voilà. Et ça, c'est une des plus fausses calomnies qui ait jamais été inventée. Et pourtant, elle est crue couramment et partout. Hein? Donc, je dirais, la théologie populaire, c'est qu'être un ennemi de Dieu, c'est le bonheur, et d'être l'ami de Dieu, c'est le malheur. Hein? Ah oui, ça, c'est ce que trop de gens pensent. Hein? Et quelle opinion des hommes, donc, quelle opinion ils doivent avoir de Dieu quand ils pensent que l'aimer, c'est être malheureux. Hein? Donc, et qu'ils puissent donc comprendre la bonté et l'amour de Dieu, afin qu'au lieu d'imaginer que son service est un esclavage, eh bien, ils puissent réaliser que d'être ses amis, eh bien, c'est la position la plus élevée, la plus réjouissante que des créatures puissent occuper. Amen. Et puis, cette crainte, un autre inconvénient, une autre chose terrible qui en résulte, c'est qu'elle empêche beaucoup d'hommes d'être sauvés. Cette crainte empêche beaucoup d'hommes d'être sauvés. Pensant que Dieu est un être dur, ils vont se tenir à distance de lui, et si de temps en temps ils ressentent, je dirais, une douce attraction au travers d'un message de la parole de Dieu ou de témoignage de ce que Dieu peut faire dans des vies, eh bien, ce bon désir, eh bien, il ne va pas finir par se transformer en acte, il ne va pas finir par se transformer en pratique. Ils ne vont pas dire « je me lèverai, j'irai vers mon Père », parce qu'ils ne connaissent pas Dieu comme un Père. Ils connaissent Dieu comme un feu dévorant. Et un homme ne dit pas « je me lèverai et j'irai vers un feu dévorant ». Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ainsi, comme Jonas, bien ils vont payer le voyage sans regarder à la dépense. Ils vont aller à Tarsis pour s'enfuir loin de la présence de l'Éternel. Et au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans le malheur et dans la tristesse, ils s'imaginent qu'il leur faut aller encore plus loin et encore en toute hâte jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans une misère trop souvent sans remède. Et combien qui sont trompés ainsi et qui se trompent ainsi eux-mêmes. Et nous voyons que cette mauvaise crainte de Dieu conduit aussi souvent les hommes à des extrémités de péché. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit. Hein? L'homme dit alors, ben, il n'y a aucune espérance pour moi avec un Dieu comme ça. Hein, j'ai fait une erreur fatale, c'est vrai, en devenant l'ennemi de Dieu, et je suis ruiné sans remède. Il n'y a aucun espoir que je puisse jamais être restauré à la joie et à la paix. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais laisser les rênes sur le coup de mes passions. Je vais me laisser aller au péché sans aucun frein. Je vais défier le sort, je vais tenter ma chance, et j'aurai autant de bonheur qu'on peut en trouver dans le péché, et si je ne peux pas être réconcilié avec le ciel, eh bien je serai un bon serviteur de l'enfer. Et il y a bien des gens, ils fonctionnent de cette manière-là. Et c'est pour cela que vous voyez des gens ben, qui se hâtent d'un crime à un autre, qui inventent continuellement de nouvelles façons de se rebeller contre Dieu et d'amonceler contre lui toujours de nouvelles désobéissances. Pourquoi ? Ben, c'est à cause de cette crainte, je dirais, satanique qui est mêlée de haine, qui est là dans leur cœur. Ah, si seulement ils voulaient comprendre que ce Dieu vivant et agissant veut toujours recevoir le rebelle, qu'il est amour, et que sa volonté n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, et combien merveilleusement leur cœur et leur vie en seraient changés. Amen, amen. Mais voilà, il est bon de parler maintenant dans notre deuxième grand point, hein, ce sera la deuxième partie, de la guérison de cette crainte. Pas seulement parler de cette crainte et de ses méfaits, mais aussi de la guérison de cette crainte. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre texte nous dit qu'ils n'avaient pas de crainte à avoir, parce que l'ange était venu leur apporter une bonne nouvelle. Je vous annonce, dit l'ange, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et quelle était cette nouvelle? Eh bien, en continuant à lire, nous voyons que c'était le fait que Jésus était né. Dieu est venu sur la terre et a pris l'humanité en union avec lui-même lorsque Jésus est né. Celui qui a fait les cieux, le voilà qui accepte de sommeiller dans une mangeoire. Dieu n'est donc pas l'ennemi de l'homme, puisqu'il fait alliance avec l'homme en Jésus-Christ. Il n'est pas si éloigné, puisqu'il s'est ainsi approché. Et je dirais que quelque part, il entre dans les liens du mariage avec l'humanité, hein, chose dont il ne nous a jamais dit qu'il ait fait, par exemple, avec les anges. Donc, pauvre humanité née dans la faiblesse, vivant dans la peine, se fatigue couverte de sueur, et puis mourant à la fin pour être mangé par les vers. Nous voyons cela. Et bien maintenant, pauvre humanité, tu n'es pas plus écrasé par la présence des séraphins. Pourquoi? Parce que l'homme est maintenant près de Dieu. Du moins, s'il se confie en lui, il est maintenant près de lui, et il n'y a pas un archange qui puisse s'intercaler entre Dieu et lui. Jésus, éternellement Dieu, est né. Il a vécu et il est mort comme nous le faisons. Voici la première parole de réconfort pour chasser notre crainte. Mais voici maintenant la deuxième. La deuxième, eh bien, nous insistons sur le fait que cet homme qui est Dieu, en même temps, il est né. Et vous voyez la parole de l'ange, il le dit, « Il vous est né ». En quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ a été plus homme qu'Adam ne l'a été. Donc, parce que Adam n'est pas né. Adam, il n'a pas à lutter pour traverser les risques, les faiblesses de l'enfance. Il n'a pas connu les humiliations de l'enfance, par exemple. Il a été adulte tout de suite, on le voit. Et notre Père Céleste ne pouvait notre Père Adam ne pouvait pas sympathiser avec moi en tant que bébé, en tant qu'enfance. Il ne pouvait pas le faire, ce n'était pas possible, il ne savait pas ce que c'était. Mais comme Jésus est semblable aux hommes, il est dans le berceau, dans la mangeoire, comme nous aussi, nous sommes passés dans le berceau. Et puis, il ne commence pas avec nous au milieu de la vie, on le voit, donc, comme Adam, mais il nous accompagne. Il nous accompagne dans les faiblesses, dans les douleurs peut-être de l'enfance, et il continue ensuite à nous accompagner, et à nous accompagner jusqu'au tombeau. Et qu'il est merveilleux qu'il ait été un enfant, et que pourtant il demeure Dieu béni pour l'éternité. Et je n'ai donc plus maintenant, je n'ai plus à avoir peur de Dieu, parce que ce lien béni entre Dieu et moi, le Saint-Enfant Jésus, a enlevé toute crainte mauvaise et l'a remplacée par la paix avec Dieu. Amen. Amen. Et observez que l'ange leur parle aussi de l'office de Jésus-Christ. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. L'objectif premier pour lequel il est né, est venu dans ce monde, c'est pour nous sauver, pour nous délivrer du péché et de ses conséquences. Il est venu pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être sauvés de la maladie, que nous puissions être sauvés des passions mauvaises, pour nous arracher aux situations sans issue, pour changer nos cœurs, pour y mettre la vie éternelle, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Il est né pour sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et s'il ne sauve pas, bien il est né en vain, parce que l'objet de sa naissance, eh bien, c'est le salut. Et s'il n'est pas un sauveur, alors la mission de Dieu sur terre elle a manqué son but, parce que son objectif était que des pécheurs perdus soient sauvés. Amen. Donc, et toi qui es perdu, eh bien, si tu es perdu encore, eh bien, s'il y avait une bonne nouvelle qui disait qu'un ange était venu pour te sauver, eh bien, il y aurait peut-être quelque chose pour te réjouir, mais il y a une meilleure nouvelle. Meilleure nouvelle encore, c'est que Dieu lui-même est venu. L'infini, le Tout-Puissant, est descendu des plus hauts cieux pour te relever, toi, un pauvre, misérable, indigne. Et quel merveilleux réconfort qu'il y a dans cette nouvelle, et quel merveilleux sauveur nous avons en lui. Amen. Et puis, l'ange n'oublie pas non plus de décrire la personne de ce sauveur. Il dit, qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur qui est le Christ. Et ça nous parle de son humanité. En tant qu'homme, il a été oint. Et puis, il est aussi le Seigneur. Et ça nous parle de sa divinité. Parce que c'est là la vérité solide sur laquelle nous pouvons planter nos pieds, c'est que Jésus de Nazareth est Dieu. Et il n'y a pas de bonne nouvelle s'il n'est pas Dieu. Hein. Ce n'est pas une nouvelle semblable que de me dire, par exemple, qu'un grand prophète est né. Si on me dit qu'un grand prophète est né, c'est une bonne nouvelle, peut-être, oui, certainement. Mais il y a eu d'autres grands prophètes auparavant. Mais le monde ne sera pas racheté du mal par des hommes qui proclament de grandes vérités seulement. C'est un sauveur qu'il nous faut pour cela. C'est ça qui est important. Mais quand on me dit que c'est le Seigneur qui est né, et puis que c'est lui qui a épousé, je dirais, notre nature humaine, alors oui, c'est vrai. Alors les cloches de mon cœur peuvent carillonner joyeusement, parce que maintenant je peux venir à Dieu, puisque Dieu est venu vers moi. Amen. Amen. Et le meilleur de cette nouvelle, c'est qu'elle est personnelle. Ça aussi, c'est important. Il vous est né, dit l'ange. Il vous est né. Donc, vous savez, vous ne recevrez jamais toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ jusqu'à ce que vous y voyez votre intérêt à vous personnellement. C'est-à-dire, il faut que vous receviez Jésus comme une acceptation personnelle. Il faut qu'il purifie votre cœur à vous. Il faut qu'il vous pardonne à vous personnellement. Il faut qu'il vous sauve et vous délivre en personne. Qu'il parle à vous, qu'il parle à votre cœur d'une façon qui vous touche. Qu'il mette en vous sa joie, sa paix, son salut, pour que ce soit votre joie, votre paix et votre salut. Amen. Il faut que vous fassiez des expériences personnelles avec Dieu, de guérison, de délivrance, de foi avec lui, et qu'ainsi sa parole soit encore plus confirmée dans votre cœur. Amen. Et c'est cela que Dieu veut. Et ça nous amène à notre conclusion. Conclusion donc, l'application de ce précieux, de ce magnifique remède, à différents cas, différentes situations. Voilà, certains peuvent se dire, mais je n'ose pas venir à Dieu aujourd'hui parce que je me sens tellement faible. Alors ne crains pas, parce que celui qui est né à Bethléem a dit aussi, je ne briserai pas le roseau froissé, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Alléluia. Certains diront, un autre dira, je n'irai jamais au ciel. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne verrai pas la face de Dieu en étant accepté. Pourquoi? Parce que je suis trop tenté. Hein. Et là aussi, eh bien, ne crains pas, parce que nous avons un souverain sacrificateur, nous dit l'Épître aux Hébreux, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en toutes choses. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il peut te comprendre parfaitement et il peut te secourir dans ton état et dans ta situation. Alors certains diront, un autre dira, mais je suis tellement seul dans le monde, personne ne s'occupe de moi, personne ne comprend ma position, mon état et mon besoin. Mais il en est un là qui veille, un qui veille et qui est un tendre ami, même pour celui qui est solitaire. Et c'est vrai qu'il veut venir en toi, il veut entrer dans ton cœur, il veut te donner sa paix, sa joie et sa grâce. Il veut vraiment agir pour te révéler se révéler à toi comme ton meilleur ami. Amen. Et voilà aussi un autre qui dira, mais un pécheur, oui, qui va dire, j'ai peur d'aller à Dieu ce soir et de lui confesser mon péché. Alors si tu as peur d'aller à Dieu, eh bien viens à Christ. Si tu connaissais Christ, tu viendrais à lui immédiatement. Tu n'auras aucune crainte de lui, même dans tes péchés, parce que qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il te dirait, va et ne pêche plus. C'est vrai. Et tu aurais la force de l'accomplir, hein, parce que c'est pas tout de le dire. Tu aurais la force de l'accomplir de manière à ce que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire, qu'il est capable d'accomplir. Un autre va dire, mais je ne peux pas prier. J'ai peur de prier. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que celui qui t'écoute, eh bien c'est Dieu, oui c'est vrai, mais c'est un homme. Hein. Jésus est le seul qui peut vraiment comprendre ta faible prière et t'exaucer dans ton besoin. Et puis celui qui dit encore, mais je me sens tellement indigne de venir. Alors oui c'est vrai, vous pouvez être indigne de venir à Dieu, mais vous n'êtes pas indigne de venir à Jésus. Alléluia. Ça aussi, il y a une dignité qui est nécessaire, c'est vrai, pour se tenir sur la sainte montagne de Dieu, mais aucune dignité n'est nécessaire pour venir à Jésus. Venez tel que vous êtes, coupable, perdu, ruiné, c'est lui qui veut vous secourir et vous sauver. Alléluia. Alors un autre va dire, oh mais je ne peux pas croire. eh bien, viens à Jésus si tu ne peux pas croire. Viens à lui aussi, hein, donc si tu le fais de tout ton cœur, bien c'est lui qui va mettre cette foi en toi. C'est toi, lui qui va te faire faire des expériences pour que tu puisses, pour que cette foi ensuite puisse grandir et que, que cette foi ne soit pas juste des mots, ne soit pas juste un sentiment, mais que ce soit une puissante réalité dans ta vie. Alléluia, hein, c'est vrai. Et un autre dire, mais je ne peux pas espérer qu'il jette même un regard favorable sur moi. Eh bien, et pourtant, rappelez-vous comment il considérait ceux qui étaient sur la terre. Comme il nous expliquait qu'il recevait les publicains et les pécheurs et qu'il mangeait avec eux et que même les prostituées n'étaient pas chassées de sa présence, mais il les sauvait et il les délivrait. Alléluia, hein ? C'est vrai, Jésus est l'ami des pécheurs. Venez à Jésus, donc venez à lui pour qu'il vous enlève toute crainte. Venez à lui pour qu'il vous ouvre vos yeux et qu'il enlève tout ce qui vous tient loin de lui, qu'il puisse enfin vous donner aussi sa joie et sa paix. Venez à lui pour que vous réalisiez qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à lui, de répondre à vos besoins et que vous puissiez après dire comme ces anges de notre passage, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen, amen. Te remercions Seigneur et nous te bénissons parce que tu es encore ce grand et merveilleux Dieu d'amour Seigneur, ce Dieu qui agit encore, alléluia, qui agit encore aujourd'hui et qui fait encore ton œuvre et qui attire encore les cœurs à toi, qui attire encore les âmes à toi Seigneur et qui veut encore leur faire du bien, qui veut encore te révéler dans leur vie parce que tu es le vivant toi-même, tu es le Tout-Puissant, tu es toujours présent Seigneur lorsqu'on se tourne vers toi, invisible mais attentif et véritablement prêt à intervenir dans les cœurs et les situations de ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur, alléluia, et merci parce que tu veux encore visiter et bénir chacun de ceux qui se confient ainsi en ton bon nom. Amen, Jésus, alléluia. Pendant que nous restons dans la prière, y a-t-il quelqu'un qui veuille venir au Seigneur pour que le Seigneur fasse son œuvre de salut, son œuvre de délivrance, de toute crainte, qu'il lève sa main, qu'elle lève sa main, et que nous puissions encore prier pour ses bien-aimés, chacune et chacun d'eux, alléluia. C'est toi, Seigneur, qui mets ta bonne main. C'est toi qui visites et qui bénis, Seigneur, encore cette sœur, ce frère, cette sœur et ce frère aussi, Jésus. Cette âme et cette vie encore, Jésus. Merci, mon Seigneur, alléluia. C'est toi qui répands ta grâce aussi sur cette âme, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Tu es encore le Tout-Puissant et le Vivant, Seigneur. Ta parole est encore vivante et efficace. Tu accomplis ton œuvre, tu vois et tu entends chaque prière silencieuse qui monte encore vers toi. Merci, mon Sauveur, pour ton amour. Merci pour ton œuvre puissante dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.